rappeler aussi à la tribune, à la table ronde, M. Patrick Bellard, qui vient de la ville de Hyères aussi. Et je voudrais savoir s'il y a, y a une autre personne qui est élue et qui m'a dit de je ne sais plus quelle commune et qui souhaitait venir aussi. Donc, ils n'ont pas encore délibéré, mais ils se posent des questions. Si vous pouvez venir, je ne sais plus où il est. Eh bien, le FIP, ça donne quoi ?
Excusez-moi, bonsoir. Moi, j'ai une question qui rejoint la deuxième question qu'a posée la dame devant moi et qui est la suivante. Est-ce que, justement, du fait qu'on ait des éléments sur la dangerosité potentielle de ces compteurs qui peuvent créer des incendies, visiblement, est-ce qu'un organisme ou un groupe... quel qu'il soit, peut engager une action juridique en invoquant justement le principe de précaution.
Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on a envie de mettre en avant le principe de précaution puisque sur les ondes, on dit que pour l'instant, rien n'est prouvé, mais le principe de précaution, il est justement fait pour ça. Eh bien, malheureusement, sur le plan judiciaire, le Conseil d'État s'est déjà prononcé à plusieurs reprises pour dire que le principe de précaution est respecté par les valeurs limites en vigueur. Des valeurs limites qui ont été définies en 1998, ensuite introduites dans la législation française en 2002, et qui, donc en 2002, ça fait donc quand même un petit moment, et qui ne prennent pas du tout en compte les faits. Je ne sais pas, Annie Thébaumoni, je ne sais pas si elle est là ce soir, je ne sais pas si elle va pouvoir venir. C'est une chercheuse dans le domaine de l'amiante, et elle explique dans son excellent livre, que vous pouvez vous procurer ce soir, La science asservie. Je vous recommande vraiment sa lecture. Pourquoi ? Parce qu'elle explique que même dans le dossier de l'amiante, on cache les morts et on cache les malades. Et bien dans la téléphonie mobile, c'est pareil. Il y a d'ores et déjà eu des décès sous les antennes d'enfants. Et ces enfants sont morts d'une forme rarissime de tumeur du cerveau, qui est le gliome du tronc cérébral. C'est une forme, le tronc cérébral, c'est là. Donc un gliome, c'est un cancer qu'on ne peut pas opérer, parce que c'est un cancer qui touche les cellules qu'on appelle la glie. Et donc, c'est un cancer diffus. Et donc, ce cancer est toujours mortel. Et dans cette tranche d'âge, il y a un nombre constant d'enfants qui décèdent. Ça n'augmente pas ni de diminue. En revanche, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu deux, alors qu'il n'y a qu'à peu près 6 à 10 cas par an, c'est rarissime.
Sur notre commune, on en a eu deux.
C'est vrai ? À Varennes ? Mais il y avait des antennes ?
Il y avait des antennes pas très très loin, à on va dire 100 mètres, de l'école maternelle.
Écoutez,
donc,
alors là...
Effectivement, là, on est en procès aussi avec Orange pour les faire. Les retirer. On leur propose un terrain plus loin pour qu'ils puissent l'installer, mais pour l'instant, bon.
Alors attendez, parce qu'il y a eu deux enfants à Saint-Cyr-l'École, ensuite, donc l'école surplombée, là, carrément par les antennes relais, ensuite, à Ruiz, dans le Pas-de-Calais, encore deux enfants atteints. Là, vous me dites encore, c'est la même école, oui. Les enfants qui fréquentent la même école, encore deux enfants.
Ils avaient tous les deux 6 ans, 1 an d'internat.
Voilà, c'est ça. Et est-ce que ces enfants, parce qu'à Saint-Cyr-l'École, par exemple, ces enfants avaient fréquenté la même classe.
C'était la même école, je
ne sais pas. Même école,
voilà. Ils avaient un angle différent, donc.
Oui, mais les autres... Oui, enfin, alors là, c'est
la même classe.
C'est la même école, mais ils ont peut-être effectivement...
Voilà. Enfin, ça me fait dresser les poils sur le corps, si vous voulez, parce que j'ai fait toute une étude là-dessus, que vous pouvez d'ailleurs lire sur le site santépublicédition.fr, qui démontre que ça ne peut pas être lié au hasard, vu la rareté de cette maladie. Donc là... si vous me dites encore deux autres cas à proximité des antennes, bon là, ça éloigne encore la probabilité que ce soit lié au hasard. Mais ce qui est important, c'est que aussi bien ces cas-là que ceux qui sont avérés, puisqu'il y a quand même une étude de la CIR, ça veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, de toute façon, on n'a jamais vu leurs résultats. Par contre, il y a eu l'INVS, Institut National de Veille Sanitaire, qui lui a conclu que c'était le hasard.
Non, mais ça, c'est l'INVS. Hein.
Il faut instaurer des seuils. Le seuil limite de 0,2 volts par mètre. Ils doivent respecter ça.
Effectivement, je vais essayer de rebondir sur...
On ne va pas supprimer les antennes.
Je vais rebondir un peu sur ce seuil. Bon, je vais me présenter. Je m'appelle Patrick Bellard. Je suis domicilié en Dordogne, Périgord Vert. Et je suis résident à la ville de Hyères, dans l'Essonne. Et je suis à ce titre, ce soir, avec trois casquettes, mais modestement parce que ma tête est petite. Monsieur le député maire Nicolas Dupont-Aignan, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, voulait absolument être là ce soir. Il y a eu un très long entretien téléphonique à plusieurs reprises avec madame Annie Lobé et le directeur de cabinet que j'ai rencontré également il y a deux jours. Par rapport à cela, mais également par rapport à des effets de téléphonie mobile. Je suis également président d'une association qui s'appelle l'ARP, l'Association des riverains du Rond-Point, qui au départ a été créée justement pour s'opposer au déploiement inopportun, on va dire comme cela, d'antennes de téléphonie mobile en zone urbaine dense, qui pose des problèmes d'exposition publique, etc. Et puis effectivement, je suis un bénévole du CCC 24, le collectif des compteurs communicants de Dordogne, où là, il y a une très très grosse mobilisation pour des petites communes. Moi, je suis effaré de voir la mobilisation en campagne, les intercollectifs qui se mettent ensemble en Corrèze, en Gironde, etc. C'est en train de bouger. Hein, si on veut faire court, ça fait de la mousse. Et aujourd'hui, moi, je peux d'abord souligner que d'abord, il faut soutenir les élus. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Si on ne bouge pas, ils feront rien. Ils ont des pressions. Pas tout à fait légal, je reçois tout à fait ce que Mme Lobé disait. Moi, je suis de formation technique dans le domaine des radiofréquences, j'ai 50 ans d'expérience dans toutes ces bandes de fréquences civiles et militaires. J'adhère à au propos qui était donné développé tout à l'heure par l'intervenant précédent sur la notion de filtre. Je vais raconter juste un petit mot, je reviendrai sur les notions de seuil, puisqu'on est dans les données relatives. Début juillet, à la demande de Enedis a demandé à rencontrer M. le député maire Nicolas Dupont-Aignan à hier. Bien. Et la délibération à hier a été prise au mois de mars. C'était la première commune de 30 000 habitants qui prend une délibération contre le déploiement des compteurs liquides à la vue des données aujourd'hui. Alors, on n'a pas utilisé le principe de précaution parce que le principe de précaution, sans entrer dans le détail juridique, il n'est pas reconnu au niveau du tribunal administratif, qui est une entité. Il peut être reconnu au niveau de l'institution judiciaire, civile ou pénale, mais là, c'est pas toujours évident, il n'y a pas de cas connu. Donc, il y a une délibération qui a été prise, d'ailleurs, à l'unanimité, même les élus de l'opposition ont voté. Hein, j'étais là, j'étais surpris. Et ça, c'était fait sur la base d'un travail qui a été fait par cette association, et ça n'a pas été fait pour faire plaisir comme ça à quelques rigolos. Donc, ça a fait un peu de bruit, si vous voulez, et nous avons, Enedis a donc demandé de rencontrer M. le maire. Donc, pour des raisons de parlementaire, etc., il n'a pas pu être présent, mais par contre, son directeur de cabinet m'a demandé d'être présent, avec un vice-président de l'association qui est également un juriste, donc il y avait compétences juristiques et techniques, et nous avons eu en face de nous trois personnes d'Enedis, très sympathiques, hein, bien sûr, donc, le directeur territorial de l'Essonne, hein, puisque c'est souvent les directeurs territoriaux qui sont en première ligne, un chef de projet Linky, donc je ne peux pas vous donner son nom, parce qu'elle n'a pas voulu laisser sa carte, donc, c'est toujours intéressant, moi je l'essaie, hein. Et puis également une DIRCOM, enfin je ne peux comprendre qu'elle
a DIRCOM, ça veut dire
directrice de la communication, qui était le bras droit de Bernard Lassus. Monsieur Bernard Lassus, c'est le monsieur qui fait beaucoup de lapsus, notamment sur BFM TV et autres, qui est bien connu, qui est le papa Linky, on va dire. Donc nous avons travaillé autour de la table sur cela. Et la première question qu'ils nous ont posée, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez? On a dit non, nous, on ne veut pas de Linky. Et la première question, une condition qu'ils nous voulaient poser, c'est de dire on demande que M. le maire enlève sa délibération. Et là, le retour a été immédiat du directeur de cabinet, qui avait mandat de M. le maire, a dit d'abord, un, je ne retire pas la délibération, premier point, donc c'était courageux. Deux, ça se fera pas sans l'accord et avec des éléments de l'association. Et trois, si on fait quelque chose, ça ne sera pas avant juin 2017. Je ne vais pas aller ça, de juin 2017, ça commence à vous dire quelque chose un petit peu sur rien d'actualité. Ça veut dire, entre parenthèses, que le Linky va peut-être à un moment donné s'aviser dans le débat politique. Je dis ça comme ça, ce n'est pas encore le cas. Avec les premiers éléments qui vont arriver, le cahier de doléances, il y aura de la lecture, c'est monsieur dame. Donc voilà. Donc il en est ressorti deux choses. On nous a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas Linky? On a dit, écoutez, d'abord, expliquez-nous la nécessité de mettre Linky. On est parti en discussion. J'avais comme donc en face de moi directrice de communication, donc elle vendait son produit, c'est normal. J'étais un peu plus surprise par rapport à l'ingénieur projet que j'avais devant moi, qui m'a soutenu. Et ça, c'est une information que je vous donne parce qu'il faut la battre en brèche, parce qu'elle existe sur les papiers. Elle est écrite par Enedis. Le CPL, courant porteur de ligne, sont bien des radiofréquences. Elles appartiennent à la bande 5 de l'Union internationale des télécommunications, c'est-à-dire repris dans votre document, avec la sous-bande CNLA. Or, il y a des documents, notamment un document qui est envoyé par Enedis à la mairie de Brive, si je m'abuse, où on dit on ne met pas de filtre parce que les Les CPL ne reviennent pas. C'est archi-faux, sauf à remettre en cause les principes fondamentaux de radioélectricité. Donc, si vous voyez, à chaque fois vous voyez ça, ce n'est pas la radiofréquence. Et l'ingénieur a assisté, moi j'ai assisté, j'ai sorti mes billes, et après il m'a dit, oui, mais ça ne revient pas beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, j'avais gagné un point. Sur, je reviens d'un point, pour ne pas monopoliser la parole, laisser la parole à la salle, sur les seuils. Puisque j'étais en charge également d'un dossier sur les opérateurs de téléphonie mobile, avec un contentieux avec un opérateur que je ne citerai pas, mais qui a fait mobiliser pas mal de monde, dont l'Agence nationale des fréquences, qui elle-même, ainsi que la plupart des opérateurs, se retranchent aujourd'hui derrière les normes, les seuils, qui datent de 2002, le décret 775 de 2002, qui donne des seuils complètement aberrants, à moins d'être assis sur l'antenne, d'être assis sur le transformateur, vous ne pourrez jamais les atteindre. C'est comme si vous disiez... Vous pouvez rouler à 200 km/h, à 205 c'est dangereux, alors que c'est qu'à 90 on peut déjà se planter. Aujourd'hui, il faut quand même voir que ça bouge depuis quelques mois, pour deux raisons. D'abord, il y a un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité d'études sanitaires, qui vient de sortir, qui parle de seuil, et qui met clairement, alors c'est pour la téléphonie mobile, mais tout ce qui rayonne aujourd'hui en champ électrique ou en champ électromagnétique, est quelque chose qui impacte sur... les cellules vivantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est un bac, donc ça impacte sur nous. Hein, le premier émetteur de radiofréquence, c'est le soleil. Donc, c'est les effets du soleil. 5 minutes, ça fait du bien. 10 minutes, je suis rouge. Un quart d'heure, je prends un coup de soleil. Et si je continue, je prends des brûlures. Et si je fais pendant 10 ans, c'est un mélano. Hein, on peut résumer un peu comme ça. Donc, mais cette notion d'exposition et de durabilité par rapport aux effets des ondes électromagnétiques sur les organismes humains, vivants, on ne les connaît pas, il n'y a pas suffisamment d'études, il y a tout et son contraire. Pour les seuils, aujourd'hui, il y a une résolution qui s'appelle la résolution 1815 du Conseil de l'Europe, qui préconise l'abaissement des seuils, tout confondu dans toutes les bandes de fréquence, à 0,6 volts par mètre dans un premier temps, voire 0,3. Nombre de pays d'Europe ont déjà, comme en Pologne, et nombre de pays d'Europe ont pris en compte, principalement les opérateurs de téléphonie mobile, ont pris en compte ces données et ont montré, sans pour autant surdensifier le réseau, qu'il était possible de ne pas dégrader la qualité de service, puisque si le téléphone cellulaire est dangereux, on l'arrête, hein, on reprend le téléphone avec du fil, et montrer que ce n'était pas dangereux. Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une réticence des autorités, quelles qu'elles soient, pas forcément politiques ou autres, de ne pas abaisser ces seuils. La tendance y est. Il y a une loi qui a été pondue, la loi dite de Mme Abeille, de Laurence Abeille et de Mme Rivasi, Dr Rivasi, député européen, dont on attend toujours les décrets. Il y a un effort qui a été fait, puisque moi, il y a une partie d'un décret qui est sorti par rapport à cette loi, mais qui concerne que la concertation départementale. Ça va peut-être faire bouger les choses par rapport pour appliquer les préfets, mais aujourd'hui, il y a une réticence à faire appliquer les données et les recommandations que prenait Mme Abeille dans cette loi, puisqu'elle reprenait en gros, sans fixer de valeur, les principes de cette résolution 1815. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors ça c'est le premier point. Deuxième point, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a eu une grande réunion à l'Assemblée nationale, où il y avait quand même 80 participants, 3h30 de débat, et l'Agence nationale des fréquences a montré un document d'étude à la demande d'Enedis sur les mesures qu'ils avaient pu faire in situ. Alors, il y a un gros problème, ce document est très intéressant. Moi, je l'ai épluché avec mon œil technique, il est révélateur et très intéressant. D'abord, la NFR dit oui, les seuils sont en dessous des seuils réglementaires.
Attendez, ce n'est pas des mesures in situ, justement, c'est des mesures en laboratoire.
Non, c'est des mesures de labo.
En laboratoire.
D'abord, elles ne sont pas in situ, mesures de labo. Déjà, en labo. Donc, c'est le link qu'il a, donc je suis normalement invité à aller faire un tour. J'attends qu'on m'invite. J'attends la convocation ou l'invitation. Donc, déjà. Sur la NFR, dit entre première chose, on n'a pas de protocole. Bah, c'est vrai que si on veut faire quelque chose, il faut au moins avoir un protocole. Il y a deux règles en technique, c'est la méthodologie et la métrologie. Et moi, c'est d'accord, qu'est-ce qu'on mesure et comment on le fait. Il n'y a pas de protocole, donc ils ont fait un truc un peu biscornu en s'appuyant sur les retours d'expérience. Je ne mets pas en cause la compétence de la NFR, loin de là. Mais il y a un embarras là-dessus. Deux, il y a quand même des valeurs qui sont sorties. Puisque c'est de l'énergie, ça se mesure, ça se voit, ça se calcule, ça se met en évidence. Et les seuils, dans certaines mesures, sont au-dessus des 0,6 volts par mètre. Donc au-dessus de la résolution des 15. Donc là, ça pose un petit souci. Deux, ce sont des mesures en labo, et pas des mesures, effectivement, sur le terrain. Information que je peux vous donner, vous n'êtes sûrement pas ce soir, le comité, il y a un collectif de Brive qui avait demandé, avec l'appui de son maire et la pression vers Enedis, de faire des mesures. sur des sites installés avec Linky en service, donc par des grappes, puisque c'est un nœud, un concentrateur qui alimente en étoile 25 à 50 compteurs, ça peut aller un peu plus loin, etc. Et on m'avait demandé si je pouvais participer, si je voulais bien participer, pour mettre un œil là-dessus. Ils ont trouvé un site, voilà, qui va y avoir des mesures faites de façon contradictoire, en présence d'Enedis, en présence d'un NFR, en présence peut-être même d'un huissier de justice, pour voir quels sont les effets sur le terrain, dans des habitations, d'une installation de liquide en service. Il faut appeler pour vérifier que les données qu'ils nous injectent dedans sont les bonnes, ils n'ont pas tendance à les sous-estimer. Et ça va donner peut-être des résultats. Et à ma connaissance, en France, ça n'a jamais été fait.
Alors, et pour cause, hein, puisque les instruments de mesure des fréquences du CPL de Linky n'existent pas, enfin, il y en a, mais ils coûtent 150 000 euros.
Oui, tout à fait.
Donc, ce n'est pas demain la veille qu'une association va pouvoir se porter acquéreur de ces instruments pour pouvoir faire justement des mesures au contradictoire, comme ça avait été fait sur les antennes relais. Raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je sais d'avance que c'est pas une bonne voie d'accès au dossier, parce qu'en fait, premièrement, ils peuvent très bien éteindre à distance les compteurs, hein, parce que c'est...
On va le voir, hein.
On va le voir. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, le directeur Linky dit qu'il a installé 300 000 compteurs pendant la phase d'expérimentation en 2010-2011. Mais quand vous regardez un dossier de presse fourni par Enedis, ils disent qu'ils ont remonté quotidiennement 170 000 courbes de charge. Ça veut dire justement tout ce qui a été consommé à l'instant T par ces personnes. Donc ils remontent 170 000 courbes de charge après en avoir installé 300 000. Alors ça veut dire que les autres, ils n'étaient pas en fonctionnement.
Ah, bon.
Et comme par hasard, dans la région lyonnaise, il y a eu très peu de remontées de problèmes. Et par contre, dans la région Indre-et-Loire, il y en a eu beaucoup. Et par exemple, je vous invite à lire ce rapport qui a été fait par une société extérieure Territoire Décision, après avoir appelé au téléphone 1500 personnes qui ont subi la pose du Linky. Donc déjà, il y en a 3 qui disent que le compteur a grillé ou le disjoncteur. Il y a 21% des personnes qui disent avoir eu la nécessité de réarmer leur disjoncteur, donc ça veut dire qu'il a sauté. Et alors, je pourrais vous en dire plus parce que vraiment, c'est super détaillé. Et quand vous lisez ça, vous tombez de l'armoire, je vous dis franchement.
Ils ne pourraient pas faire les tests sur eux, ces gens-là. Parce que moi, je peux vous dire que je suis électrosensible. Je suis même hyper électrosensible quand je fais des crises. Mais qu'ils fassent les tests sur eux, qu'ils se mettent dans leur maison.
Alors justement, là-dessus, j'ai une réponse à vous apporter.
Qu'ils le sentent à leur corps, que ça fait.
Figurez-vous, bon, vous allez dire, je ne peux pas donner le nom de la personne, et malheureusement, mais je connais une personne qui travaille à la présidence d'une grande entreprise à Paris. Elle a un collègue qui habite le 7e arrondissement de Paris, dans un immeuble dans lequel habite également un grand ponte d'EDF. Son collègue était au courant, par cette personne que je connais, des problèmes posés par le Linky. Il s'est trouvé qu'à l'été 2015, tous les compteurs de cet immeuble ont été remplacés. Mais ils n'ont pas mis des Linky. Alors, le collègue a demandé à ce ponte, « Mais on devrait mettre des Linky, pourquoi est-ce qu'on ne met pas des Linky ?» L'autre a répondu, « Non, mais il y a des problèmes de fiabilité avec le Linky.
Ah. »
Non, mais c'est vrai qu'il est face sur eux, parce qu'on ne croit pas les électrons. Ça commence à être reconnu. Parce que
vous voulez prendre un micro, madame?
Moi, c'est pas besoin. Moi, j'en ai un, j'ai quelque chose à dire.
Mais c'est important, cette question de l'électrosensibilité. J'aimerais bien...
Un micro, c'est juste pour préciser que plutôt que de faire des tests qui contredisent les droits de l'homme sur des humains, comme ils peuvent faire des tests en Afrique ou chez les Indiens pour d'autres problèmes médicamenteux et autres, qui testent chez eux. Ils vont se rendre compte des impacts qu'il y a sur le corps au fur et à mesure.
Mais ils le savent. Ils le savent.
Bah oui, mais moi je précise parce que tous les gens sont électrosensibles et tout le monde ne se rend pas compte de l'urgence. Avec l'urgence planétaire et climatique, ça fait un peu beaucoup tout ça.
Moi je peux vous dire.
Crise sanitaire planétaire.
Ailleurs dans l'équipe. Au niveau riverain, ce qui nous a motivé de monter une association et de se battre contre un opérateur de téléphonie mobile, j'ai 3 SICAM. Et on se bat en permanence. Par contre, ce qui est intéressant, on aurait pu partir à la bataille plus tôt, mais avec quoi? Monsieur le maire a essayé d'aller au tribunal administratif, il s'est fait choquer 2 fois, puis au principe de précaution, pour les problèmes d'électrosensibilité et autres. Mais maintenant, on a des billes, c'est-à-dire qu'on a des certificats médicaux. Là, c'est un peu plus difficile d'aller contre les certificats médicaux avec des marqueurs biologiques. Puisque vous savez sûrement que depuis quelques mois, il y a des marqueurs biologiques qui confirment les possibilités de prouver que les gens sont électro-hypertoxiques.
Mais 1000 euros les examens. Alors,
effectivement, ça coûte, mais après, il y a des solutions. Et ça part en brèche, surtout, quelque chose qui m'a absolument horrifié quand j'ai vu le colloque qui était à l'Assemblée nationale, où un député qui s'appelle M. Accoyer, je l'appelle M. Accoyer parce qu'il se prévaut du titre de docteur, qui a osé affirmer, et vous allez voir sur le web, c'est pas du baratin, que les gens qui étaient restés assises, madame, vous avez rigolé, que les gens qui étaient EHS ou électrosensibles étaient des psychopathiques, etc. Ça, c'est absolument. Alors, effectivement, la notion de psychème est à prendre en compte, justement, est-ce que le fait de mettre le CPL, à la limite, le CPL avec le Linky, pourquoi pas, et quel est, je reprends vos propos tout à l'heure, monsieur, il n'y a aucun intérêt à laisser ces fréquences circuler dans les câbles internes de la maison. Ces ondes-là devraient s'arrêter à l'entrée du disjoncteur. Et pour finir là-dessus, quand j'ai posé la question à la Miss Linky, là, que j'avais devant moi au mois de juillet, elle m'a dit « Nous ne l'avons pas prévu ». J'ai dit « Attendez, c'est basique ». Et après, elle m'a dit « On ne pourra pas le mettre, ça va être trop cher ». Effectivement, il y a quelques contraintes techniques. A contrario, ces filtres dont vous parliez tout à l'heure qui existent, parce que dans l'industrie, dans certains sites industriels protégés ou de transport, comme les métros, si ces filtres ne sont pas, les machines ne marchent pas. Vous voyez ? Donc, on est devant un truc. Donc, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Quand bien même ils nous mettraient les filtres, on aurait pu les problématiques d'ondes. Ça ne résout pas les autres problèmes de
l'intrusion. Il faut bien comprendre pourquoi ils ne mettent pas ces filtres. C'est parce qu'ils veulent récupérer les données. S'ils mettent les filtres, ils ne peuvent plus récupérer les données. Leur but, c'est de récupérer nos données pour les vendre.
Dernière subtilité,
c'est pour ça qu'ils mettent
la notion de positionnement de Enedis en tant que distributeur. En tant que distributeur, comme peut-être d'autres alternatives. On est venu à parler du fameux ERL, l'émetteur Radio Linky, qui est un élément qui serait monté sur le compteur et qui fonctionnerait avec d'autres fréquences. Et là-dessus, Enedis dit, nous on ne veut pas savoir, nous on ne connaît pas.